Emmanuel Kant, la religion dans les limites de la raison. Deuxième partie, la lutte du bon principe avec le mauvais. Deuxième section, de la prétention du mauvais principe à la domination sur l'homme et de la lutte des deux principes l'un contre l'autre. L'Écriture sainte, Nouveau Testament, expose ce rapport moral intelligible sous la forme d'une histoire où deux principes, aussi opposés dans l'homme que le ciel et l'enfer, représentés comme des personnes distinctes de lui, non seulement essaient l'un contre l'autre leurs forces respectives, mais encore tâchent de faire valoir par le droit, l'un comme accusateur, l'autre comme avocat de l'homme, leurs prétentions contraires, ainsi que devant un juge suprême. L'homme, à l'origine, avait reçu en partage tous les biens de la terre, selon Genèse 1:28. Mais il ne devait les posséder qu'à titre de fief, sous la suzeraineté de son Créateur et Seigneur. Or voici qu'aussitôt apparaît un être mauvais, et l'on ne nous dit pas comment il a pu devenir mauvais au point d'être infidèle à son Seigneur, alors qu'il était bon originellement. Qui, dépossédé par sa chute de toutes les possessions qu'il pouvait avoir eues au ciel, veut en acquérir d'autres sur la terre. Et comme cet être est d'une espèce supérieure et qu'à titre d'esprit il ne saurait trouver de jouissance dans des objets terrestres et corporels, il cherche donc à établir cette domination sur les âmes, en excitant les premiers parents de tous les humains à se révolter contre leur Seigneur et en se les attachant. Et comme cette entreprise lui réussit, il arrive à se faire le suzerain de tous les biens de la terre, c'est-à-dire à s'ériger en prince de ce monde. On pourrait sans doute trouver étrange que Dieu n'ait pas fait usage de sa puissance contre ce traître, et qu'il ait mieux aimé anéantir dès son commencement le royaume qu'il s'était proposé de fonder. Note. Le père Charlevoix nous dit qu'un catéchumène iroquois, auquel il dépeignait tout ce que le mauvais esprit a introduit de mal dans la création primitivement bonne, et tous les efforts qu'il fait constamment pour rendre vaines les meilleures institutions divines, lui demanda, non sans impatience, ouverture de guillemets, « Mais pourquoi Dieu ne tue-t-il pas le diable ?» fermeture de guillemets. Et il nous avoue franchement qu'à cette question, il ne put pas trouver sur le champ de réponse. Fin de la note, retour au texte. Mais la domination et le gouvernement de la sagesse suprême sur des êtres raisonnables se conforment au principe de la liberté de ces êtres, qui ont à s'imputer à eux-mêmes ce qui leur arrive de bien ou de mal. Sur cette terre, donc, malgré le bon principe, fut établi un empire du mal, auquel se sont soumis tous les descendants naturels d'Adam, et cela du reste de leur plein gré, l'illusion des biens de ce monde détournant le regard de l'abîme de perdition qui leur est réservé. Certes, pour maintenir son droit à régner sur les hommes, le bon principe institua une forme de gouvernement uniquement fondée sur le respect public de son nom. Ce fut la théocratie juive. Mais comme les âmes, ainsi gouvernées, n'avaient d'autres mobiles que les biens temporels, et que du reste, elles ne voulaient pas être gouvernées autrement que par des récompenses et des châtiments dans la vie présente, ce qui les rendait incapables d'accepter d'autres lois en dehors de celles qui, d'une part, imposaient des cérémonies et des pratiques gênantes, et, d'autre part, étaient des lois morales où, cependant, intervenait la contrainte extérieure et qui, pour ce motif, n'étaient rien que des lois civiles, où l'intention morale intime n'était point prise en considération. Un tel ordre de choses n'était point fait pour ruiner de fond en comble le règne des ténèbres, et ne servait qu'à rappeler sans cesse l'imprescriptible droit du maître primitif. Or, chez ce même peuple, au moment où il ressentait, aussi fortement que possible, tous les maux inhérents à une constitution hiérarchique, et où, pour ce motif, comme aussi peut-être sous l'influence exercée peu à peu sur lui par ses leçons de liberté morale, ébranlant l'esprit d'esclavage, donné au monde par les sages grecs, s'ouvrait grandement à la réflexion, et par conséquent, était mûr pour une révolution. apparut tout à coup un personnage dont la sagesse encore plus pure que celle des philosophes antérieurs semblait comme descendre du ciel et qui, tout en se donnant lui-même, en ce qui touchait ses enseignements et son exemple, pour un homme véritable sans doute, s'annonçait cependant comme un envoyé d'une naissance telle qu'il gardait l'innocence originelle et n'était point compris dans le pacte que le reste du genre humain, par son représentant, le premier homme, avait conclu avec le principe mauvais. C'est bien qu'en lui, le prince de ce monde, ainsi, n'avait aucune part. Note. Qu'une personne affranchie du penchant inné au mal soit concevable comme possible si on la fait naître d'une mère vierge, c'est une idée de la raison s'accommodant à un instinct, on peut dire moral, difficilement explicable, mais cependant indéniable. Nous considérons en effet la procréation naturelle, parce qu'elle est toujours liée au plaisir sensuel d'un couple et que, pour la dignité de l'humanité, elle semble établir une trop proche parenté entre nous et l'espèce des animaux en général, comme une chose dont nous avons à rougir. Représentation qui certainement est devenue la véritable cause de la prétendue sainteté de l'État monacal. Par conséquent, elle nous apparaît comme quelque chose d'immoral et d'inconciliable avec la perfection d'un homme, mais qui cependant est entrée dans notre nature et se transmet, par suite, à la descendance du premier homme comme une hérédité mauvaise. À cette représentation obscure, d'un côté simplement sensible, mais d'un autre côté morale et par conséquent intellectuelle, est donc bien adéquate l'idée d'une procréation virginale, indépendante de tout rapport sexuel, d'un enfant exempté de tout défaut moral, bien qu'elle ne soit pas théoriquement sans difficulté. Il est vrai toutefois qu'au point de vue pratique, on n'a rien à déterminer en ce qui regarde la théorie. Car dans l'hypothèse de l'épigénèse, il faudrait que la mère issue de ses parents par procréation naturelle fût affectée de ce défaut moral et en transmis tout au moins la moitié à son enfant, nonobstant sa procréation surnaturelle. Partant, pour échapper à cette conséquence, il faudrait adopter le système de la préexistence des germes dans les parents et celui de leur développement, non pas dans l'élément femelle, on n'éviterait pas ainsi la conséquence, mais uniquement dans l'élément mâle, non le système des ovules, mais bien celui des spermatozoïdes. Cet élément n'étant pour rien dans une grossesse surnaturelle, la représentation dont nous avons parlé, devenue théoriquement conforme à cette idée, pourrait maintenant être défendue. Mais à quoi bon toutes ces théories pour ou contre, quand dans la pratique il suffit que nous nous représentions cette idée comme un modèle en tant que symbole de l'humanité s'élevant d'elle-même au-dessus des séductions du mal et résistant victorieusement aux tentations. Fin de la note, retour au texte. Car cet homme, incréable à Dieu, venant à résister aux tentations du démon et à rejeter ce contrat, d'autres hommes après lui suivraient les mêmes sentiments. C'était pour le mauvais esprit tout autant de sujets perdus et son règne courait le risque d'être détruit entièrement. Satan offrit donc à cet homme de le faire son feudataire commandant à tout son royaume pourvu qu'il consentît à lui en rendre hommage comme au suzerain véritable. Cette tentative ayant échoué, il enleva d'abord à cet étranger venu dans ses terres tout ce qui aurait pu lui rendre la vie agréable ici-bas, le réduisant à la plus grande pauvreté. Et puis, non content de cela, il suscita contre cet homme toutes les persécutions par lesquelles les méchants peuvent rendre amère cette vie, torture que l'homme de bien est seul à ressentir dans le fond de son âme, calomnie qui s'attaque à l'intention pure de ses doctrines, pour lui enlever tout crédit, et il le poursuivit jusque à la mort la plus ignominieuse, sans pouvoir toutefois réussir à lui enlever si peu que ce soit de sa fermeté et de sa franchise dans ses leçons et ses exemples qui visaient à la perfection de gens totalement indignes. Quelle fut maintenant l'issue de ce combat? Le résultat peut en être considéré à deux points de vue, en droit et en fait. Si l'on se place au dernier point de vue et que l'on considère ce qui frappe les sens, le bon principe a eu le dessous dans la lutte, après avoir enduré beaucoup de souffrances, il dut laisser la vie dans ce combat, parce qu'il avait fomenté une insurrection dans une domination étrangère, qui avait la force pour elle. Mais comme le royaume dans lequel les principes détiennent la puissance, qu'ils soient d'ailleurs bons ou mauvais, n'est pas un royaume de la nature, mais de la liberté, c'est-à-dire un royaume tel qu'on n'y peut disposer des choses qu'autant qu'on règne sur les âmes et où, par conséquent, n'est esclave que qui veut l'être, et aussi longtemps qu'il veut l'être. Justement, cette mort, le degré le plus élevé des souffrances d'un homme, était la mise en lumière du bon principe, c'est-à-dire de l'humanité, dans toute sa perfection morale comme un modèle à imiter par tous. La représentation de cette mort dut avoir dans son temps, et peut avoir même pour tous les temps, la plus grande influence sur les âmes humaines en faisant voir, dans le plus saisissant contraste, la liberté des enfants du ciel et l'esclavage d'un simple fils de la terre. Ce n'est pas cependant simplement à une certaine époque, mais dès l'origine du genre humain, que le bon principe est descendu du ciel dans l'humanité, d'une manière invisible. Comme doit l'avouer tout homme qui remarque à la fois la sainteté de ce principe et l'impossibilité où l'on est d'en comprendre l'union avec la nature sensible de l'homme dans la disposition morale. Et y a élu, juridiquement, son premier domicile. Quand donc il apparut dans un homme réel pour servir de modèle aux autres, ouverture de guillemets, il vint dans sa propriété et les siens ne l'accueillirent point. À ceux qui le reçurent, il donna le pouvoir de s'appeler enfant de Dieu, croyant en son nom. Fermeture de guillemets. C'est-à-dire que, par l'exemple de l'homme qu'il a revêtu dans l'idée morale, il ouvre toute grande la porte de la liberté à tous ceux qui veulent, comme lui, mourir à tout ce qui les tient, au détriment de la moralité, enchaînés à la vie terrestre, et qu'ils forment avec eux, ouverture de guillemets, un peuple dévoué aux bonnes œuvres qui est à lui, fermeture de guillemets, et se soumet à sa domination, abandonnant à leur sort ceux qui préfèrent la servitude morale. Donc, l'issue morale de ce combat, du côté du héros de cette histoire jusqu'à sa mort, n'est pas, à proprement parler, la défaite du mauvais principe, puisque son règne dure encore et qu'il faut, en tout cas, que vienne une nouvelle époque où il sera détruit, mais seulement un amoindrissement de sa puissance, puisqu'il ne peut plus retenir contre leur volonté ceux qu'il a eu si longtemps pour sujet, maintenant que pour eux s'est ouverte une autre domination morale, car il faut que l'homme se range sous une domination de ce genre, une république, où ils peuvent trouver aide et protection pour leur moralité s'ils veulent quitter leur ancien tyran. Du reste, le mauvais principe est toujours appelé le prince de ce monde, où les partisans du bon principe doivent toujours s'attendre à des souffrances physiques, à des sacrifices, à des mortifications d'amour-propre, qui sont représentées ici comme des persécutions du mauvais principe, étant donné que ce principe réserve dans son royaume ses récompenses à ceux-là seuls, qui ont fait des biens terrestres leur fin dernière. On voit aisément que, dépouillée de son enveloppe mystique, cette représentation vivante, qui seule vraisemblablement pouvait en son temps mettre l'idée à la portée de tous, a été, quant à son esprit et quant à son sens rationnel, pratiquement valable et obligatoire pour tout le monde et pour tous les temps, parce qu'elle est assez rapprochée de nous tous pour nous servir à connaître notre devoir. Le sens en est que le seul salut pour les hommes, c'est d'accepter très intimement de véritables principes moraux dans leur intention. Qu'à cette acceptation s'oppose non point la sensibilité, comme on l'en accuse si fréquemment, mais une certaine perversité qui est elle-même coupable, une méchanceté, qu'on peut du reste aussi appeler fausseté, ruse du démon par laquelle le mal est entré dans le monde, perversité inhérente à toute âme, et qui ne peut être vaincue que par l'idée du bien moral dans sa parfaite pureté, si l'on a conscience que cette idée du bien appartient réellement à la disposition primitive de l'homme et qu'on n'a qu'à s'appliquer à la maintenir pure de tout mélange et à l'adopter profondément dans son intention pour être convaincu, grâce à l'effet qu'elle produit insensiblement sur l'âme, que les puissances redoutées du mal n'ont plus sur elle de pouvoir. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ceci dit, pour nous empêcher de vouloir suppléer à cette confiance, superstitieusement, par des expiations qui ne supposent pas un changement du cœur, ou fanatiquement, par de prétendues illuminations intérieures, purement passives, et de nous tenir de la sorte constamment éloignés du bien, fondé sur l'activité personnelle. Et que nous devons du bien moral exiger pour tout caractère celui d'une bonne conduite. Au reste, la peine que nous prenons à découvrir dans l'Écriture un sens qui soit en harmonie avec les enseignements les plus saints de la raison n'est pas seulement permise, elle doit même être considérée plutôt comme un devoir. Et l'on peut à cette occasion se rappeler ces mots adressés par le maître si sage à ses disciples au sujet de quelqu'un qui suivait sa route particulière, par laquelle en définitive il devait atteindre le même but. Ouverture de guillemets, laissez-le faire, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Fermeture de guillemets. Remarque générale. Pour qu'une religion morale, qui n'est pas une religion de dogmes et d'observances, mais une disposition du cœur à observer tous les devoirs humains comme des préceptes divins, arrive à s'établir, il faut que tous les miracles que l'histoire rattache à son introduction rendent enfin superflue, elle-même, la croyance aux miracles en général. C'est en effet trahir un degré d'incrédulité morale digne de châtiment que de se refuser à reconnaître aux prescriptions du devoir telles qu'elles se trouvent originellement écrites dans le cœur de l'homme par la raison, une autorité suffisante, si par surcroît, elle n'impose pas leur créance par des miracles. Ouverture de guillemets. Si vous ne voyez point des prodiges ni des miracles, vous ne croyez pas. Fermeture de guillemets. Il est cependant très conforme à la conception ordinaire des hommes de se figurer lorsqu'une religion de simple culte et d'observance touche à sa fin et doit céder la place à une religion fondée en esprit et en vérité, basée sur l'intention morale, que l'introduction de cette dernière, bien qu'elle n'en ait pas besoin, s'accompagne aussi dans l'histoire, et pour ainsi dire se pare de miracles pour annoncer qu'est venu le terme de la première proclamation. Proclamation qui, sans miracle, n'aurait joui d'aucune autorité. On s'explique même, et c'est naturel, que pour gagner à la Révolution nouvelle les partisans de la religion établie, on la leur est donnée comme l'accomplissement de l'ancien symbole, comme la réalisation de la fin que la Providence s'était proposée en l'établissant. Et cela étant, il ne sert à rien de contester les récits dont il est question, ou les interprétations qu'on en donne, maintenant que la vraie religion est fondée et qu'elle peut d'elle-même se maintenir, actuellement et dans l'avenir, par des principes de raison, après avoir eu besoin, en son temps, de pareils moyens pour aider à son introduction. Car ce serait vouloir admettre que le simple fait de croire et de répéter des choses incompréhensibles, ce qui est loisible à chacun sans qu'il soit meilleur pour cela ou qu'il ne devienne jamais, est une manière, et la seule, de se rendre agréable à Dieu, prétention contre laquelle il faut s'élever de toutes ses forces. Il se peut donc que la personne du maître, de l'unique religion valable pour tous les mondes, soit un mystère, que son apparition sur la terre, comme son départ d'ici-bas, comme sa vie, riche en exploits, et ses souffrances, soit de purs miracles, et même que l'histoire qui doit certifier le récit de tous ces miracles elle-même soit un miracle, une révélation surnaturelle. Nous pouvons laisser subsister la valeur de tous ces miracles et même vénérer en eux l'enveloppe grâce à laquelle une doctrine, dont la créance est basée sur un document ineffaçablement conservé dans toute âme humaine et n'a nul besoin de miracles, a pu se répandre au grand jour, à la condition, et ceci concerne l'usage de ces narrations historiques, de ne pas faire de la connaissance de ces miracles, de leur confession de bouche et de cœur, une partie de la religion, une chose qui soit d'elle-même capable de nous rendre agréables à Dieu. Mais pour ce qui regarde les miracles en général, il se trouve des hommes judicieux, qui n'étant point d'avis de se refuser à y croire, ne veulent jamais toutefois laisser pratiquement intervenir cette croyance. Ce qui revient à dire que s'ils croient théoriquement à l'existence du miracle, ils n'en veulent pas reconnaître en fait. C'est pourquoi de sages gouvernements, tout en admettant l'opinion qu'il y a eu des miracles anciennement, tout en lui faisant même une place légale parmi les théories religieuses publiques, n'ont cependant pas permis de nouveaux miracles. Note. Les docteurs en religion qui, pour leur article de foi, suivent l'inspiration de l'autorité gouvernementale, les orthodoxes, se laissent eux-mêmes en ce point, guidés par la même maxime. C'est pourquoi M. Pfenninger, dans sa défense de M. Lavater, son ami, qui avait soutenu la possibilité toujours réelle d'une foi qui opère des miracles, les taxait à bon droit d'inconséquence, puisque tout en professant, car ils acceptaient explicitement ceux dont la façon de penser était naturaliste sur ce point, puisque tout en professant qu'il y a eu réellement des thaumaturges dans la communauté chrétienne, voici environ 17 siècles, il n'en voulait plus reconnaître aucun aujourd'hui sans pouvoir cependant prouver par l'écriture ni que ces miracles un jour devaient totalement cesser, ni à quelle époque ils devaient cesser. Soutenir en effet qu'ils ne sont plus maintenant nécessaires, c'est une sophistication par où l'on prétend à des vues trop grandes pour qu'un homme se les accorde. Et la preuve qu'il demandait, ces docteurs ne l'ont point fournie. Ils ne se guidaient donc que sur une maxime de la raison, pour refuser d'admettre et de permettre actuellement des miracles, non sur une vue objective, qui ne s'en fait plus de nos jours. Mais est-ce que cette maxime, qui cette fois-ci vise des désordres à redouter dans la communauté civile, ne s'appliquerait pas aussi à la crainte qu'on peut avoir de désordres analogues dans la République des philosophes ou des penseurs en général? Ceux qui n'admettent pas de grands miracles, des miracles sensationnels, en permettent pourtant libéralement de petits, par eux nommés directions extraordinaires, parce que ces derniers, simples coups de barre, n'exige de la cause surnaturelle que peu de dépenses de force. Ceux-là, dis-je, ne réfléchissent pas qu'il ne s'agit pas ici de l'effet produit, ni de sa grandeur, mais bien de la forme du cours du monde, c'est-à-dire du mode de production de l'effet, naturel ou surnaturel. et qu'il n'y a pour Dieu aucune différence entre le facile et le difficile. Et sous le rapport du mystère qui se trouve dans les influences surnaturelles, il est encore moins correct de vouloir ainsi délibérément atténuer l'importance d'un événement de ce genre. Fin de la note, retour au texte. En effet, les anciens miracles ont été peu à peu si bien déterminés et limités par l'autorité qu'aucune perturbation n'en peut résulter dans l'état, tandis qu'on devait nécessairement s'inquiéter des nouveaux thaumaturges à cause de l'action qu'ils pouvaient exercer sur la tranquillité publique, sur l'état des choses établies. Mais si l'on pose la question, quel sens faut-il donner au mot « miracle » comme notre intérêt n'est ici à vrai dire que de savoir ce que sont, pour nous, les miracles, c'est-à-dire ce qu'ils sont pour notre usage rationnel pratique, on peut donner cette définition. Ce sont des événements produits dans le monde par des causes dont les modes d'opération nous sont et doivent nous rester nécessairement inconnus. On peut alors diviser les miracles en divins et en démoniaques, et ces derniers en miracles angéliques, œuvres des bons esprits, et en diaboliques, opérés par les mauvais anges. Ceux-ci sont proprement les seuls dont on s'enquiert, car les bons anges, je ne sais pourquoi, font peu ou même ne font point du tout parler d'eux. Pour ce qui est des miracles divins, il est hors de doute que nous pouvons nous faire une idée du mode d'action de leur cause, qui est un être tout-puissant et en outre moral, mais seulement une idée générale en tant que nous concevons Dieu comme le créateur et le conservateur de l'ordre physique et moral du monde, puisque nous pouvons avoir des lois de cet ordre immédiatement et par nous-mêmes, une connaissance que la raison peut ensuite employer à son usage. Mais si nous admettons que Dieu, fût-ce de temps à autre et dans des cas particuliers, laisse la nature s'écarter des lois qui la régissent, nous n'avons pas et ne pouvons pas espérer d'avoir quelque jour la moindre idée de la loi que Dieu suit dans la production d'un événement de ce genre. Sauf cette idée morale générale que tout ce que Dieu fait est bien, laquelle, au point de vue de ce cas spécial, ne donne aucune détermination. Ici donc la raison est comme paralysée, puisque de ce fait, elle est arrêtée dans ses spéculations dirigées par des lois connues, sans qu'aucune loi nouvelle l'instruise, sans que jamais non plus elle puisse espérer d'en recevoir en ce monde l'explication. Mais, de tous ces miracles, les diaboliques sont ceux qui sont les plus incompatibles avec l'usage de notre raison. Car, en ce qui concerne les miracles divins, la raison peut encore avoir pour son usage un critère au moins négatif. Je veux dire que, dans le cas où l'on présenterait comme ordonné par Dieu, dans une apparition divine immédiate, une chose directement contraire à la moralité, il est impossible, malgré toutes les apparences, qu'il y ait là un miracle divin. Tel est par exemple le cas de l'ordre imposé à un père de tuer son fils, autant qu'il le sache, bien innocent. Tandis que pour un miracle diabolique, ce critère même nous fait défaut. Et que si nous voulions, relativement à de tels miracles, prendre pour l'usage de la raison le critère opposé, c'est-à-dire positif, qui consisterait à envisager un miracle s'il nous invite à l'accomplissement d'une action bonne et dans laquelle en soi nous reconnaissons déjà un devoir, comme n'étant pas l'œuvre d'un malin génie. Nous pourrions en ce cas nous tromper grandement, car le démon prend souvent, comme on dit, la forme d'un ange de la lumière. Dans la pratique, on ne peut donc jamais faire état des miracles ni les faire entrer en ligne de compte dans l'usage de la raison, nécessaire à chacun dans tous les états de la vie. Le juge, quelle que soit sa foi dans l'Église au miracle, quand, pour sa défense, le délinquant parle de tentation diabolique dont il a été la victime, ne fait aucun cas de ce qu'il entend. Et cependant, il y aurait, s'il trouvait la chose possible, une circonstance bien digne d'être prise par lui en considération dans ce fait qu'un pauvre imbécile est tombé dans les pièges d'un madré scélérat. Mais le juge ne peut pas citer le démon à sa barre, le confronter avec le prévenu, ni, en un mot, tirer des raisons invoquées quelque chose de raisonnable. L'ecclésiastique sensé se gardera donc bien de remplir la tête de ses fidèles d'histoires relatives aux protées infernales et de leur dépraver l'imagination. Pour ce qui est des bons miracles, les gens n'en font mention dans ce qui touche à leurs occupations que par manière de parler. Ainsi le médecin, en parlant d'un malade, dit « À moins d'un miracle, il n'y a rien à faire. » Traduisez « Sa mort est certaine. » Or, au nombre des professions, il y a aussi celle du savant qui doit rechercher les causes des faits dans les lois physiques qui les régissent. Je dis dans les lois de ces faits, lois que, par conséquent, il peut constater par l'expérience, bien qu'il doive se résigner à ne pas connaître, dans son essence, ce qui agit d'après ces lois, ou bien ce que ces lois pourraient être pour nous, si nous étions doués d'un autre sens possible. C'est également un devoir pour l'homme de travailler à son amélioration morale. Et certes, il se peut bien que des influences célestes collaborent toujours avec lui dans cette œuvre, ou soient regardées comme nécessaires pour en faire saisir la possibilité. Mais l'homme n'est capable ni de les distinguer d'une manière sûre des influences naturelles, ni de les attirer sur lui, elle et le ciel, pourrait-on dire. Ne sachant donc rien en faire directement, il ne constate pas, en ce cas, de miracle. Mais, s'il prête l'oreille au précepte de la raison, il se comporte alors comme si toute conversion et toute amélioration dépendaient simplement de ses propres efforts et de son application soutenue. Cela revient à dire qu'il ne fait pas entrer la foi au miracle dans ses maximes, de la raison théorique ou pratique, sans nier pourtant ni la possibilité ni la réalité des miracles. Mais que du fait qu'on a reçu le don de croire fermement au miracle en théorie, on puisse encore en opérer et assiéger ainsi le ciel, c'est une chose qui dépasse beaucoup trop les bornes de la raison pour qu'on s'arrête longuement à une telle assertion vide de sens. Note. Un subterfuge habituel de ceux qui recourent aux arts magiques pour exploiter les gens crédules, ou qui veulent au moins y faire croire en général, consiste à en appeler à l'aveu que font de leur ignorance les physiciens. On ne connaît pas, disent-ils, la cause de la pesanteur, ni de la force magnétique, etc. Mais nous en connaissons les lois, avec une précision suffisante, dans les strictes limites des conditions sous lesquelles seulement se produisent certains effets. Et pour faire de ses forces un emploi rationnel certain, aussi bien que pour en expliquer les phénomènes, c'est suffisant. Par là devient aussi compréhensible ce phénomène interne de notre entendement, qui fait que de prétendus miracles de la nature, c'est-à-dire des phénomènes suffisamment accrédités bien qu'anormaux, ou des propriétés des choses qui se présentent contre toute attente et s'écartent des lois naturelles déjà connues, sont accueillis avec avidité, et exalte l'esprit tant qu'on les tient pour choses naturelles. Tandis que, à l'annonce d'un vrai miracle, ce même esprit demeure terrassé. C'est que les premiers de ces faits font entrevoir à la raison l'acquisition d'un aliment nouveau, c'est-à-dire d'un espoir de découvrir de nouvelles lois naturelles, tandis que les seconds provoquent la crainte de perdre même la confiance dans ce qui déjà passait pour connu. Or, privée des lois de l'expérience, la raison n'offre plus aucune utilité dans un pareil monde enchanté, même sous le rapport de l'usage moral qu'on pourrait en faire en ce monde pour obéir à son devoir. Car on ne sait plus si, à notre insu, il ne se produit pas, même dans les mobiles moraux, par miracle, des changements dont nul ne saurait décider s'il doit les attribuer à lui-même ou à une autre cause impénétrable. Ceux dont le jugement est ainsi disposé qu'il ne croit pas pouvoir se passer de miracles dans l'explication des choses, pensent adoucir le coup que leur opinion porte à la raison en admettant que les miracles n'ont lieu que rarement. S'ils entendent par là que cette rareté est déjà contenue dans l'idée de miracle, parce que si d'arriver habituellement un événement de ce genre ne serait pas qualifié de miracle, on peut à la rigueur leur passer ce sophisme, par lequel ils transforment une question objective, portant sur la chose, et sur ce qu'elle est, en une question subjective, concernant le sens du mot employé pour la désigner. Et leur demander en retour, quel sens donnez-vous à ce « rarement » ? Est-ce une fois tous les 100 ans, ou anciennement, et maintenant plus ? Ici, pour nous, rien n'est déterminable au moyen de la connaissance de l'objet. Car de notre propre aveu, cet objet nous est transcendant. C'est seulement aux maximes nécessaires de l'usage de notre raison que nous devons avoir recours. Et ces maximes veulent, ou qu'on admette les miracles comme se produisant quotidiennement, quoique cachés sous l'aspect de faits naturels, ou qu'on ne les admette jamais. Et dans ce dernier cas, que l'on ne les donne pour base ni à nos explications rationnelles, ni aux règles de nos actions. Comme la première de ces maximes est incompatible avec la raison, force nous est d'adopter la seconde. Car ce principe n'est toujours qu'une maxime d'appréciation, et non une affirmation théorique. Personne n'oserait se faire une assez haute idée de sa pénétration pour vouloir décider catégoriquement, au sujet par exemple, de la si merveilleuse conservation des espèces végétales et animales, chaque génération nouvelle reproduisant, sans altération son original, avec toute la perfection intérieure du mécanisme, et comme on le voit dans les végétaux, même avec toute la beauté des couleurs, du reste si tendre, et cela à chaque printemps. Sans que les forces par ailleurs si destructives de la nature inorganique au cours des mauvais temps de l'automne et de l'hiver aient pu amoindrir à ce point de vue leurs semences, pour vouloir décider, par une vue directe, que tout ceci est une simple conséquence des lois de la nature, et que cette conservation n'exige pas, chaque fois, l'influence immédiate du Créateur, ce qui serait tout autant admissible. Mais tous ces faits sont des expériences. Ils ne sont donc, pour nous, que des effets physiques, et nous ne devons jamais les juger autrement. Ainsi le commande la modestie d'un raison dans ses prétentions. Dépasser ses limites, c'est témérité et présomption, bien que la plupart du temps, on prétende montrer dans l'affirmation des miracles une pensée qui s'humilie, se détache d'elle-même. Fin de la note.